Je vous rappelle comment nous, en auriculomédecine, nous testons un remède. Nous testons un remède en approchant l'anneau test qui le possède du pavillon de l'oreille. Et en général, c'est un test au contact. Ce test au contact, en principe, donne pour un remède qui est bon aucun rebond, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de rap positif. Et quand vous écartez, au contraire, vous avez un effet très positif et répété. C'est-à-dire que, et vous avez au contact rien, à l'écart, vous avez quelque chose. À l'approche, c'est-à-dire à 100 mètres, le filtre donne quand même une réaction. Ce test est un test d'approche. En réalité, il n'est pas capable de pouvoir vous renseigner autrement qu'en en gros, vous savez que ce remède n'est pas très toxique pour le malade et qu'il lui est même favorable. Et ceci est suffisant pour ce que nous voulons faire avec, par exemple, les oligo-éléments. Les oligo-éléments sont sûrement des corps qui sont, en principe, qui ne sont pas toxiques, ou du moins qui n'ont pas d'effet secondaire très important, et lorsque vous avez une approche négative et un écart positif important, vous pouvez penser que l'oligo-élément est favorable. Pour que ça soit vraiment une indication d'oligo-élément, vous faites aussi cette même mesure d'approche, ou plutôt de contact, au niveau du front et au niveau du bras. Et il doit y avoir une réponse zéro. C'est-à-dire aucune pulsation réactionnelle positive. Vous avez donc là un examen d'approche. Mais pour savoir vraiment quel est le génie du remède, il faut employer une technique un peu plus élaborée. Sachant le côté qui est du corps, centre ou périphérie, qui donne l'activation du produit, si la personne est directe, ça sera au niveau du bras, si au contraire elle a des inversions et que vous ne l'ayez pas corrigé, c'est le front. Eh bien, dans ces conditions-là, vous excitez en plaçant dans la position directe, par exemple le fil sur le bras, et vous approchez de l'oreille, vous mettez au contact de l'oreille, trois filtres qui vont à eux seuls vous donner une idée, une seconde vision de votre médicament, à condition que ce médicament n'ait pas été considéré comme toxique d'emblée. Évidemment, à ce moment-là, c'est plus la peine. Il est toxique d'emblée s'il approche du médicament d'oreille, donne des pulsations positives très fréquentes. Alors, revenons-en à la seconde réaction. Vous avez placé votre filtre médicamenteux sur le bras et vous mettez au contact, premièrement, système nerveux central, le filtre qui possède les 4 ou 5 produits mélangés du système nerveux central, c'est-à-dire le cortex, le thalamus, les nerfs, le cervelet et la région hypothalamique, par exemple. Et si vous n'avez pas de toxicité vis-à-vis du système nerveux central, le contact de ce filtre ne doit provoquer aucune réaction à l'oreille. Et vous en faites de même avec le mésoderme, qui lui contient le cœur, une représentation des organes génitaux, le rein, les muscles, les vaisseaux, et vous regardez s'il y a une réaction de ce côté-là. Et puis enfin, vous pouvez faire le test avec l'endoderme qui va contenir représentation du foie, de la rate, du pancréas, de l'estomac, du côlon, du poumon, par exemple. Et vous avez là vous pouvez même rajouter les autres parties qui vous paraissent les plus significatives de l'endoderme. À ce moment-là, vous avez une représentation de ce tissu, et quand vous touchez l'oreille, si vous n'avez pas de réaction, vous dites qu'il n'y a pas d'action sur l'endoderme. Et bien, l'expérience nous montre que beaucoup de produits qui sont considérés à l'approche de l'oreille comme non toxiques ont des incidences sur l'un des trois tissus, ont des incidences secondaires. Ce n'est pas des incidences primaires, ce n'est pas peut-être que c'est très important d'emblée, mais des incidences secondaires. Ces incidences sont d'autant plus importantes qu'elles font partie de ce qu'on appellerait des réactions d'allergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous répétez le contact de telle ou telle anesthèse à l'oreille, eh bien, non seulement les pulsations de base, les premières pulsations que vous avez, se maintiennent, mais vous avez chaque fois une information qui est de plus en plus importante. C'est-à-dire que vous rapprochez brusquement de l'oreille le filtre, vous avez trois pulsations réactionnelles, et puis la seconde fois, vous en avez six, puis vous en avez dix, vous en avez quinze. Et c'est évident que l'allergie ou l'importance de l'allergie se mesure au type de progression. Si vous avez de 2, si vous passez à 3, de 3 à 4, etc., c'est une allergie modeste. Tandis que si vous passez brusquement de 2 à 10 et de 10 à 30, c'est une allergie de type, j'allais dire, géométrique, et c'est une allergie très, très sérieuse, très grave. Et la toxicité du produit s'en trouve mesurée d'une manière accrue. Vous avez à ce moment-là des produits qui sont d'une toxicité assez grande. Mais même, je le répète, des produits qui dans un premier temps paraissent tout à fait innocents s'avèrent à cette mesure indirecte quelquefois toxiques. À plus forte raison s'ils sont toxiques d'entrée. Vous trouvez à ce moment-là des allergies qui sont très fortes à l'un de ces trois tissus. Voilà donc, en petit début de cette histoire, le problème, c'est un problème, ce problème des médicaments, d'autant plus que peu d'entre eux sont efficaces quand ils ne sont pas toxiques. Et je pense que toute la thérapeutique tourne autour de l'indication des remèdes. Qu'est-ce qu'un remède? Qu'est-ce qu'une dose? C'est véritablement quelque chose de très difficile. Et si j'ai parlé de problème, c'est probablement, comprenez-le tout de suite, que j'ai l'intention, un jour prochain, de donner un embryon de solution. Mais je dois vous dire très honnêtement qu'à l'heure actuelle, je serais incapable de donner autre chose que des grandes indications, des matières à réflexion, et non pas une solution réelle de ce problème. Je n'ai pas marqué la solution de la dose thérapeutique, j'ai mis le problème de la dose thérapeutique. Ce problème, souvent, nous le négligeons. Nous le négligeons, et quelle que soit notre formation médicale, notre discipline, nous le négligeons parce que nous n'en prenons pas conscience. Il faut reconnaître que la médecine traditionnelle française, européenne, occidentale, nous porte peu à cette prise de conscience. Les leçons thérapeutiques que nous recevons en fin d'études sont des leçons courtes qui sont peu étayées par la connaissance réelle de l'action du remède que l'on va employer. On nous dit, et c'est là où nous avons le plus de chances de tomber d'une manière exacte, on nous dit que dans les infections, dans les parties, les abcès, les parties infectieuses, nous pouvons prélever soit directement au niveau de l'abcès, soit par le sang, nous pouvons isoler un germe, que ce germe, nous le cultivons et que nous pouvons essayer des antibiotiques pour voir quel est celui qui est le plus indiqué. Je pense que c'est là l'amorce d'une étude systématique de l'emploi d'un médicament vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un germe, mais pas vis-à-vis d'un malade. Car, hélas, si tel ou tel antibiotique a une action élective et intéressante vis-à-vis de tel germe, il faut reconnaître que cet antibiotique n'a pas qu'une action unique, mais par l'intermédiaire des incidences, de son incidence sur la flore intestinale, a des influences multiples et qu'il peut parfaitement être mal supporté par celui qui le reçoit. J'ai un malade qui m'inquiète beaucoup, que j'ai vu avant-hier soir, et je me suis surpris, comme au premier temps de ma médecine, de me réveiller avec le souci de ce jeune malade. C'est très rare que ça m'arrive maintenant, non pas que j'ai raison, mais parce que, en vérité de la médecine, on a moins de sensibilité peut-être. Il s'agit d'un jeune homme qui, d'un garçonnet de 14 ans, qui, dans son tout jeune âge, a fait un rhumatisme articulaire aigu, à l'âge donc de 6 ans. Et actuellement, et jusqu'à ces dernières semaines, ce garçon a eu tous les mois une ou deux millions d'injections d'expansilis à titre préventif. Il a fini, à l'âge de la puberté, par faire une croissance extrêmement rapide, et au dernier glaive, nous étions, certains d'entre vous étaient réunis, nous avons eu l'occasion d'examiner pour un nystagmus qui montrait un défi de stérosoplasme. Or, c'est un garçon qui, par ailleurs, a l'air de bien sauver. Or, la famille est évidemment bouleversée parce qu'on lui a dit qu'il fallait actuellement, alors qu'il a déjà pris des doses importantes et pendant des années, en piqûre que le gosse en a parti la tête, et qu'on envisage, et qu'il a eu aussi de la cortisone, et qu'on envisage maintenant une corticothérapie intense pour un garçon qui se défend comme il peut et qui se défend même pas mal. Évidemment, ça pose de très, très, très gros problèmes. Et j'ai eu l'occasion de le revoir, et j'avoue que je suis plus que troublé parce que les éditions de TSF de l'année dernière m'ont mis en relation avec tout ce qu'il pouvait y avoir comme pseudo-emplace en France, de mobilisables et d'évolutifs ou pas évolutifs. J'ai vu des gens de tous les coins et j'ai pu ainsi mesurer ce qui se faisait en France pour les soins d'astérosenclase. Et actuellement, pour l'astérosenclase, eh bien, on ne fait plus de cortisone. Il y a encore des gens qui viennent à la fond, mais surtout, on évite d'en faire à d'autres transports, surtout chez les jeunes personnes. Et d'autre part, il faut prendre une position, il faut prendre une décision. Vous voyez, là arrivait le problème de la dose thérapeutique, dose qui a été renouvelée indéfiniment depuis plus de 6 ans. Lorsque l'un d'entre nous, que vous avez été votre voisin de table, et qui a été opéré récemment du cœur, je ne dis pas son nom, qui m'a dit que ce n'est pas la peine d'en parler dans tout le monde, lorsque cet homme qui a été opéré a eu un peu de température après le changement de valvule de son cœur et qu'on lui a mis une valvule de porte, eh bien, il a fait un peu donc de température. On lui a fait des prises de sang, des hémocultures, et on n'a rien trouvé. Dans ces conditions-là, on a pensé qu'il était bon d'ouvrir le parapluie et on lui a fait des doses de pénicilline, et en quelques semaines, il a eu plus d'un milliard de doses de pénicilline. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut être. Et sa température ne baissait toujours pas. Alors, on se pose des questions. On est pris, vous voyez, à la gorge par ces problèmes, à la fois de thérapeutique et de dose. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on le faire? Or, moi, je pense avions, et si l'un de nous avait été au chevet de son collègue, on aurait pu, par les tests, par les nodotes que nous avons, c'est-à-dire les vaccins, on aurait pu isoler l'antibiotique efficace, si véritablement antibiotique il faut, pour une température, car on ne voit que le microbe, on ne voit que le microbe et on ne voit pas le virus. Vous voyez que le problème est un problème. Et puis ce problème se trouve à tous les niveaux. Il se trouve au niveau de l'économie générale d'un pays. Vous savez que actuellement, il y a une telle multiplication de produits inutiles pour tel ou tel malade, j'entends pas inutile en soi, inutile dans son application, que les budgets d'État vont bientôt n'être plus capables de pouvoir assurer une médecine sociale. Le problème, à côté du problème, passons, voyez-vous, à la dose. Eh bien, la dose, puisque c'est aussi mon heure où je suis un peu je flirte un peu avec l'homéopathie, eh bien, nous nous trouvons en face de choses tout à fait différentes. Vous avez les doses fortes, vous avez les doses faibles, et je ne suis pas d'accord sur cette division. Je dirais plutôt des doses qualitatives, des doses quantitative, et parmi ces doses qualitatives, je verrai volontiers des doses positives, pondérales, et comme je vous l'ai expliqué, je vais vous en refaire encore un petit exposé, des doses négatives. Pourquoi négatives? Parce que tous les travaux actuels, il y a deux sortes de travaux qui ont permis d'avancer la question. Des travaux sur les marquages radioactifs, et la thèse de Mlle Lu à Montpellier qui a montré que, en définitive, dans les dilutions successives homéopathiques, on pouvait considérer que l'élément de base qui était dilué finissait par s'effacer en laissant se substituer à sa place un marquage sur l'excipient. Ce marquage, c'est ce que j'appellerais la qualité négative. Et on comprend fort bien qu'une dose puisse être d'une part un apport, d'autre part un retrait, qu'elle puisse faire pencher la balance du côté de l'adjonction de quelque chose, ou qu'elle puisse être dans un domaine d'aspiration de quelque chose d'organique. Dans les deux cas, c'est une action totalement différente. Et puis, il y a entre les deux un no man's land d'un mélange à la fois de ce qui est l'apport pondéral et de ce qui est le retrait pondéral. Le marquage, il faudrait l'imaginer comme quelque chose de creux qui se trouve sur l'excipient, en particulier l'éthanol. Et la chose pondérale, eh bien, c'est une molécule qui est surajoutée dans l'excipient, à côté de l'excipient. Mais, regardez combien le problème est délicat. Que ça soit une dose pondérale, ou que ça soit une dose négative, la chose va être fort différente dans l'action. L'action même de la dose va être différente suivant le terrain sur lequel elle va s'appliquer. Si vous avez affaire à quelqu'un qui réagit plus ou moins différemment que le voisin, vous allez avoir une action tout à fait différente. Et c'est pour cette raison que dans ce problème de la dose thérapeutique, il ne faut pas, à côté du problème, avoir absent à l'esprit la notion de comment agir. Une dose, comment agit un remède? Eh bien, un remède, souvent on a cette idée inconsciente, par exemple de l'aspirine, prenons l'aspirine, on sait très bien que l'aspirine, on ne sait pas comment ça agit, mais enfin tous les remèdes, on a l'impression que quand on en prend, le remède va juste conduit par le système circulatoire, va se fixer à l'endroit même où le malade se souffre et qu'il va ainsi modifier le problème local qui s'est présenté. Et c'est tellement vrai, cette idée tout à fait primaire, que lorsqu'un remède dans la médecine traditionnelle n'agit pas suffisamment, on en double la dose, on en triple la dose, on arrive jusqu'à 1 milliard de ridiculine pour éviter que, etc. Plus on en donne, on a l'impression plus ça agit. Or nous pouvons nous trouver, et la auriculomédecine le montre bien, on peut être à côté de la plaque, d'abord. Et puis ensuite, il est nécessaire, lorsque vous employez un produit, de bien individualiser ce produit et de savoir à quel moment il faut le prescrire, parce que vous avez derrière le terrain. Et ce terrain est toujours, toujours stressé. Un médicament est toujours un stress. Et c'est ça, on ne comprend jamais. Ce n'est pas par là, ce n'est pas directement le produit qui va modifier la région malade, mais c'est par l'intermédiaire du tempérament. Et la méconnaissance du terrain, la méconnaissance du tempérament est une faute fondamentale du médecin qui, lui, va croire aux médicaments, alors qu'en réalité, il faudrait toujours que dans sa pensée soit associé médicament et terrain. Un médicament et une drogue agit toujours comme un stress et se traite toujours parasympathique. Et il ne donne son action favorable que s'il trouve en face une réaction orthosympathique suffisante pour pouvoir neutraliser cette action défavorable. Alors vous voyez tout de suite que soit dans l'action positive pondérale, soit dans l'action négative homéopathique, dans les deux cas, c'est un stress. L'homéopathie est un stress, même quand le stress peut être par apport ou par retrait. Il ne faut pas négliger cette idée de retrait comme stress. Je me rappelle avoir été soigné autrefois, après un très bon examen, avec une dose de lycopodium. Eh bien, cette dose de lycopodium, j'en ai subi un stress qui s'est prolongé pendant 6 mois. Ça paraît incroyable, c'est très rare, ça prouve que je peut-être un peu pas comme les autres, au point de vue réactivité. C'est possible, et c'est même probable, c'est même sûr. Mais, parce que j'ai des symptômes qui n'ont jamais été découverts au Kent, qu'on vous apprend. Mais, il y a malgré tout quelque chose d'exact, à savoir que l'homéopathie est stressant. Et vous avez des gens qui ne supportent pas l'homéopathie. Même chose dans d'autres thérapeutiques qui n'est pas simplement, ce ne sont pas les doses. Quand je dis les doses, je ne dis pas la dose pondérale d'un produit. Il ne faut pas oublier que vous avez des doses thérapeutiques qui ne sont pas des produits. Ça peut être une manipulation. Et parmi les manipulations, vous en avez qui sont fortes, vous en avez qui sont faibles, vous en avez qui sont douces, vous en avez qui sont, j'allais presque dire, négatives. Et le cas de ce que fait par exemple certains kinésiques qui sont les massages de cordes sont souvent des choses très légères. Et bien malgré tout, j'ai eu l'occasion de voir des gens stressés gravement après de toutes petites manipulations légères. Et passons même à la conversation, à l'interrogatoire, aux conseils donnés aux malades. Ce sont aussi des doses. Mais ces doses, elles ne sont pas toujours thérapeutiques. Mais nous avons vu des mots qui tuaient les malades, ou du moins qui les mettaient dans cet état qu'on pouvait supposer que c'était là la cause de leur maladie. Je vous ai toujours raconté qu'un jour, dans mon cabinet, une de mes clientes qui avait depuis déjà des mois et des mois des troubles intestinaux de stade et qui avait des selles en crayon, on avait des selles en crayon très petites, et qui se croyait atteinte d'un cancer, a été stressée d'une manière très grave par une de mes élèves qui, passant et prenant le tout à pied haut, a un intestin gros comme une ficelle. C'est une expression de Amélie Boyer, elle avait pas tort de le dire, je ne l'en accuse pas, mais c'était un mot horriblement malheureux, car cette femme s'est dit, c'est évident, chez mon grand-père. Alors là-dessus, elle a été bouleversée, il n'y avait pas eu d'autre mot prononcé. Je l'ai fait examiner par mon frère, on a vu que c'était un spasme, on l'a rassuré, pour son cancer, il n'y avait pas de cancer. Et comme elle avait été stressée d'une manière grave et qu'elle n'avait pas de cancer, elle avait une autre localisation, une localisation mentale. Elle a été obligée de rester pendant plusieurs semaines dans une maison de santé complètement désorientée, étant donné qu'elle s'était figurée être l'incarnation propre de Satan et seule au monde capable de supporter toutes les peines de tous les péchés du monde. C'était des choses affreuses, cette femme a souffert de manière épouvantable. Je ne sais pas comment elle a guéri, enfin elle a guéri. Mais elle a fait un cancer du sein. Alors, comme quoi, souvent, il y a alternance, en parenthèse, entre une affaire psychique et une affaire du sein. Eh bien, oui, je sais qu'il y avait des poids, mais là, j'ai été obligé d'abandonner, étant donné l'intensité de ce problème. Je veux dire, bah, peut-être que je l'avais peut-être pas encore écrit. Voilà donc. Il faut élargir le problème de la dose. Il faut élargir la notion de cette dose. Il faut comprendre que la dose n'existe qu'en fonction du terrain sur lequel elle va s'appliquer et que toujours il se produit un stress et que toujours il faut parler de réaction. Et le terrain, est-ce que nous y pensons quelquefois? Nous pouvons par l'auriculomédecine en connaître les caractéristiques ou certaines caractéristiques. Regardez, nous avons trois types de réactions. Et nous le savons, par exemple, par la tourelle des deux d'une manière extrêmement. Vous avez d'abord la réaction normale du sujet. Avec la tourelle des deux, lorsque vous le projetez sur l'oreille, vous avez à l'inspiration absolument aucune réaction au pouls. À l'expiration profonde, vous avez un pouls légèrement coupant. Ça, c'est la réaction normale. Lorsque vous allez donner n'importe quoi à cette personne, à ce sujet, eh bien, il aura des réactions normales. On ne risque pas d'avoir, ou risque peu d'avoir, à condition que cela couvre tout l'ensemble de l'économie, vous ne risquez pas d'avoir des inconvénients. Et puis, vous allez avoir deux autres types. Ce sont tous les deux pathologiques. D'une part, l'allergie, que vous connaissez très bien, qui peut être allergie moyenne, légère, discrète, uniquement produite au moment où vous faites respirer le malade, inspirer à la fin d'inspiration, brusquement, le pouce vient coupant. Il vient coupant lorsque vous projetez de l'orange, la tourette des deux, surtout, et du bleu aussi. Qui est de l'autre côté de l'axe. Et puis, vous avez l'allergie forte qui se manifeste sans aucune inspiration, spontanément, par la respiration superficielle qu'a cet individu quand il vit. Ça, c'est le côté pathologique allergique. Et puis, vous avez aussi l'autre côté qui est l'allergie qui se rend compte dans des états pathologiques graves, mais quelquefois, les états pathologiques ne sont pas encore complètement développés. Et alors, vous faites inspirer et expirer le malade, et soit aller à l'inspiration, soit surtout à l'expiration, vous n'avez rien. Je dis surtout, c'est-à-dire que même à l'expiration, vous n'avez rien. Absolument aucune modification. Vous avez là l'état d'allergie. Alors, réfléchissez. Vous allez donner des remèdes. Si vous avez affaire à quelqu'un d'allergique, réfléchissez, si vous donnez des doses fortes, vous allez provoquer, si ces doses, ou elles vont être spécifiques, ou elles ne le seront pas. Si elles ne sont pas spécifiques, je les écarte, c'est pas la peine, c'est de l'argent perdu, c'est une action stupide que de donner des drogues qui peuvent toujours être toxiques, à retardement, mais qui ne sont pas spécifiques. Mais vous allez donc, dans l'un et dans l'autre cas, donner des remèdes spécifiques que vous aurez isolés de telle ou telle manière. Et bien, dans le premier cas de l'allergie, vous voyez tout de suite apparaître la nécessité d'employer des doses très faibles, des doses presque négatives. Pourquoi négatives?
En effet, l'allergie, c'est un excès de positivité, c'est un excès de réaction, c'est un excès de tout, à propos de peu de choses. Une petite dose, énorme réaction.
Vous êtes donc employé dose négative. Ou du moins, il est possible que ce soit la dose négative qui soit la plus favorable et qui provoque une réaction favorable, à condition qu'elle soit adaptée suffisamment à l'allergie. Attention, étant donné que toute action agit par réaction de l'organisme, la dose qui sera adaptée sera une dose négative et qui sera dans le sens de l'allergie. Attention, ça ne sera pas, ne contrariera pas l'allergie, sera une dose privative donnant encore une augmentation d'allergie. C'est le rôle de l'homéopathie. Puis ensuite, cette allergie va dans un certain temps s'effondrer parce que vous aurez stimulé très légèrement cette allergie. Eh bien, l'allergie, c'est exactement la même chose, avec cette différence que vous n'allez pas pouvoir mobiliser l'organisme contre l'allergie avec une dose très faible, étant donné qu'il n'a pas de réaction. Vous allez être obligé d'employer une dose beaucoup plus forte. Et je me demande si ce n'est pas là qu'existe la division, vraiment la frontière entre les malades qui sont sensibles d'un côté à l'homéopathie et ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui sont sensibles à l'allopathie et ceux qui ne le sont pas. Il me semble que dans l'allergie et chez les gens qui ne réagissent très peu, qui n'ont pas de réaction, eh bien il faut employer peut-être des doses plus fortes, de telle sorte que ces doses alertent les défenses organiques, mais dans le sens même, toujours, d'une augmentation de l'énergie pour que l'organisme se défende. Si c'est toujours en état de réaction, vous allez avoir votre thérapeutique. Ce n'est pas dans... Il ne va pas y avoir une action compensatrice de l'énergie qui sera favorable. Et c'est là, je crois que dans les deux cas, on peut parler d'action homéopathique, mais avec des petites doses négatives ou des doses positives d'appoint. Vous voyez que le problème est un problème absolument énorme. Et il ne faut pas, quand je me suis penché sur l'organon d'Hahnemann, j'ai été très troublé parce que ça m'a rappelé des quantités de souvenirs, étant donné que j'ai étudié ça il y a quelques années. Et je vois que Hahnemann n'a pas fait la distinction réelle entre la dose positive d'apport et la dose négative de retrait. Parce qu'il ne pouvait pas penser qu'il y avait ce retrait possible. Je vous ai expliqué que toutes les expériences qui ont été faites et que j'ai réalisées il y a par exemple depuis 3 ans montrent à l'évidence que nous ne sommes plus au-dessus du nombre d'Avogadro avec dans des dilutions qui sont inactives.
Des questions? Eh bien, oui. Ah oui, alors pour les filtres alimentaires ou pour les filtres qui risquent de s'altérer, il faut faire des mélanges avec un corps qui empêche la putréfaction et qui est le formol à 4% environ. Vous mettez des gouttes de formol à 4%. Il n'y a pas d'interférence avec le formol. Le formol est très bien supporté. Oui. Oui.